L'horreur saisit un village gallois où une femme a été poignardée de sang-froid.
Une fois morte, on l'avait étendue puis mutilée.
Les indices macabres suggèrent un sacrifice rituel.
On était aux prises avec un meurtre grave, comme on n'en avait jamais vu auparavant.
Les rumeurs et les légendes dispersent l'enquête policière.
Qui aurait pu tuer quelqu'un pour accomplir un rituel et quel était son mobile?
La criminalistique pourra-t-elle démasquer le bourreau responsable du meurtre? Cette reconstitution est basée sur le récit de témoins, les preuves de la police et les dossiers judiciaires. Le 25 novembre 2001, la police se rend à une résidence de Lanfair au pays de Galles. L'agente Alison Hughes arrive la première sur les lieux.
On a reçu l'appel vers 12h30 de la part d'une femme du service de repas à domicile. Elle n'avait pas eu de réponse chez une vieille dame et elle s'inquiétait à son sujet. Elle a aussi dit qu'un carreau était fracassé. En m'approchant de la maison, j'ai eu un pressentiment. Le trou dans la fenêtre était assez grand pour laisser passer un individu.
Mabel?
Alors j'ai retiré une bonne partie du verre. J'ai empilé les morceaux pour tâcher d'en préserver autant que possible. Puis je me suis faufilée par la fenêtre. Au départ, je m'attendais à trouver une vieille dame qui aurait fait une chute. Je croyais qu'elle serait malade ou blessée. Mais la pièce où on est entré était impeccable et tout semblait à l'ordre, à part le carreau brisé. Le salon était baigné d'une lueur orange à cause du feu.
Quand l'agente Hughes avance à l'intérieur, elle fait une découverte choquante.
Mabel?
J'ai vu un édredon. Puis juste au-dessus de l'édredon, j'ai aperçu des cheveux.
L'agente ignore si la personne sous la couverture est assoupie, blessée ou pire encore.
J'ai saisi le rebord de l'édredon et je l'ai baissé. Ma première réaction a été de me dire que la dame était décédée. Il fallait sortir de là, car c'était une scène de crime.
La maison paisible de la veuve fourmille bientôt de policiers. Dewey Jones se joint à l'enquête de ce crime atroce.
À mon arrivée, j'ai fait le point avec l'agente qui était déjà sur les lieux. On a établi qu'il s'agissait d'une dame âgée du nom de Mary Mabel Leishon. Elle habitait seule depuis la mort de son mari.
L'inspecteur John Clayton prend la direction des opérations. Pour enquêter sur ce crime grave dans le village tranquille, l'inspecteur doit vite réunir une équipe d'agents de la région.
Le plus important, c'est de dépêcher sur les lieux une équipe d'identité judiciaire, des responsables de la scène de crime et un poste de commandement. Tout ça prend du temps. On manipule des preuves génétiques qui sont très fragiles. Il faut donc apporter des mesures de sécurité sur place. On porte des combinaisons et des couvre-chaussures.
Les enquêteurs consignent les indices physiques sur les lieux.
En entrant, on a aperçu du verre là où l'agresseur avait lancé une ardoise par le carreau du bas.
Les techniciens en identité judiciaire passent les lieux au peigne fin. Le pathologiste Brian Rogers vient déterminer la cause du décès.
Je tâche toujours de ne pas trop m'aventurer sur une scène de crime. Je veux recueillir mes premières impressions pour avoir une idée de ce qui s'est passé, en évitant d'altérer les preuves médico-légales.
Brian Rogers entre dans le salon et il voit des objets disposés de façon curieuse.
J'ai remarqué par terre, devant le foyer, des tisonniers croisés et un chandelier. Ce qui m'a paru pour le moins étrange.
Quand on retire la couverture du corps, le pathologiste d'expérience est stupéfié par ce qu'il découvre.
Elle avait visiblement été mutilée. Elle avait une grande blessure ouverte à la poitrine. Il y avait des plaies multiples causées par un couteau à l'avant et sur les côtés de sa poitrine. Le sternum était tranché en deux dans le sens de la longueur, à partir d'ici jusque dans le haut de l'abdomen. Et sans entrer dans les détails, il était évident que son cœur avait disparu.
Mais l'horreur n'est pas terminée.
À la droite du tabouret, il y avait un plateau d'argent qui contenait du sang. Sur ce plateau reposait une casserole où se trouvait un objet enveloppé dans plusieurs feuilles de papier journal. J'ai délibérément évité d'ouvrir le paquet sur place, de peur de détruire les preuves médico-légales.
Les enquêteurs se doutent de ce qui est emballé dans le papier journal.
Je me suis demandé si le cœur se trouvait vraiment là-dedans.
Les techniciens recueillent les preuves matérielles tandis que Brian Rogers et John Clayton essaient de déchiffrer la curieuse scène de crime.
Je me suis dit que c'était certainement la chose la plus étrange que j'avais vue de ma vie.
À ce moment-là, j'étais presque convaincu d'un détail. Une fois morte, on l'avait étendue, puis mutilée. Pour quelle raison cela avait été fait, je n'en étais pas sûr.
Quand le médecin est sorti, il était blême. Il m'a dit que c'était une des pires scènes qu'il avait vues. Il ne comprenait pas comment quelqu'un avait pu faire ça.
Déroutés par ce qu'ils ont trouvé, les enquêteurs espèrent que l'autopsie de la veuve pourra éclairer son meurtre barbare. La police enquête sur un homicide troublant qui a eu lieu dans un endroit inattendu.
Ce meurtre est arrivé dans un village qu'on appelle dans la région Llanfair Pidgey, mais son nom entier se dit...
Ce village a le taux de criminalité le plus bas qui soit. Selon les statistiques, c'est l'endroit le plus sécuritaire au Royaume-Uni.
On était tous stupéfaits. On était même estomaqués qu'une telle chose ait pu se produire dans le nord du pays de Galles. Et encore plus dans un village rural de l'île d'Anglesey.
Les experts en criminalistique continuent d'examiner les lieux du meurtre brutal de Mabel Lation. Mais les enquêteurs sont perplexes quant au mobile. Une chose est sûre, ce n'était pas un cambriolage.
Rien n'avait été volé, aucun tiroir n'était ouvert, c'était... étrange.
Même le sac à main de la veuve semble intact. Une analyse approfondie ne révèle aucune empreinte digitale à part celle de la victime. La police de la région fait appel à l'expert en criminalistique, Tom Brimley.
Quand j'ai d'abord pris part à l'enquête, je me suis dit que ce crime pourrait être difficile à élucider, contrairement à un meurtre conjugal où le coupable est évident. Au début, on n'avait aucune piste, alors il y avait un risque assez élevé qu'un autre crime semblable soit commis peu de temps après.
Compte tenu de la violence du crime, on trouve curieusement peu de sang.
Quand on arrive sur les lieux d'un meurtre, on s'attend à voir du sang partout. Mais là, il n'y en avait nulle part ailleurs que sur le corps.
Alors où était donc passé le sang?
Puis on découvre une seule marque, près de la porte arrière.
Cette tache se trouvait sur le cadre de la fenêtre, près du carreau cassé. Sa position suggérait qu'elle avait été faite par la main d'une personne qui quittait les lieux. Évidemment, quelqu'un qui entre par un carreau brisé risque de se couper.
Le sang pourrait être celui de la victime, mais la police espère qu'il appartient au meurtrier. Dehors, les techniciens ont trouvé un filon potentiel, une empreinte de chaussure sur une ardoise couverte de mousse.
Des photos de l'empreinte de chaussures ont été prises sur place et apportées en laboratoire. À partir de ces photos, on a créé une illustration qui représentait la semelle de la chaussure en question.
Au poste de commandement de la police, John Clayton informe son équipe des détails inquiétants du crime. L'inspecteur Yeston Dave se joint à l'enquête.
Les agents ont eu tout un choc durant cette réunion. On a été étonnés d'apprendre la nature brutale des blessures qu'avait subies Mabel Lation.
En raison du caractère ritualiste du meurtre, la police adopte une stratégie pour limiter la panique et les fausses confessions du public.
On voulait taire auprès des médias le fait que le cœur avait été retiré et qu'il s'agissait d'un crime macabre.
On s'inquiétait beaucoup des répercussions qu'il y aurait dans la communauté si on diffusait les détails, car la population du village est largement composée de personnes âgées.
En attendant les résultats d'analyse des preuves médico-légales, les agents arpentent les rues selon les bonnes vieilles méthodes policières. En ratissant le quartier, ils trouvent une piste.
Des voisins ont dit qu'ils avaient vu une fourgonnette bleue, et l'un d'eux avait aperçu le véhicule dans l'entrée de Mabel.
Cette piste devient trop fructueuse.
Dès qu'on a diffusé l'information dans les médias, les gens se sont mis à voir des fourgonnettes bleues partout. On nous a signalé des fourgonnettes de tous les modèles et de toutes les teintes de bleu possibles.
Pendant que la police suit les moindres pistes, le docteur Rogers entame l'autopsie.
En examinant le corps en détail, j'ai pu confirmer que les plaies avaient été causées par un couteau. Si ma mémoire est bonne, il y avait 22 coups de couteau. Certains d'entre eux n'avaient pas atteint d'organes vitaux. Certaines des blessures étaient des lésions de défense. Il y avait donc plusieurs plaies aux mains et aux avant-bras. Cela indiquait clairement qu'à un moment donné, Mme Lation avait levé les bras comme ceci pour éviter les coups de son agresseur.
Certaines coupures sont plus déroutantes.
Les plaies sur les jambes, dans les plis des coudes et au cou, se trouvaient là où des vaisseaux sanguins importants sont près de la surface de la peau. Mais il n'y avait pas de traces de sang autour des plaies. Elles avaient l'apparence typique de blessures qui sont infligées après le décès.
L'autopsie fournit plus de questions que de réponses. Le docteur Rogers se concentre donc sur l'objet emballé dans le papier journal. Comme on le craignait, c'est le cœur de Mabel Lation.
Le cœur avait été retiré assez adroitement, mais de façon brusque. Il n'avait pas été prélevé habilement comme l'aurait fait un chirurgien ou un pathologiste, qui, lui, n'aurait pas taillé le sternum au centre. C'est la région la plus difficile à pénétrer, parce qu'il s'agit d'un os très dur. Il faut une grande force pour le percer. Je ne croyais pas que l'agresseur avait une formation médicale, mais plutôt des connaissances de base en anatomie.
Le cœur de Mabel présente des dommages inusités.
L'extrémité du cœur avait été totalement tranchée. C'était une blessure étrange. À mon avis, l'agresseur l'avait infligé délibérément une fois qu'il avait extrait le cœur. En pressant le cœur après avoir tranché le bout, cela aurait évacué tout le sang.
Ces blessures ajoutées aux plaies situées près des artères principales suggèrent une seule explication.
Il était clair qu'une fois morte, on l'avait étendue puis mutilée. Le but principal de cette opération était de la vider de son sang.
À la lueur des résultats de l'autopsie, ce meurtre paraît encore plus étrange. Les conclusions du docteur Rogers, les tisons croisés et le chandelier sur les lieux poussent la police à envisager des idées issues des légendes et des cauchemars.
J'ai fait des recherches sur le paganisme et d'autres sujets du genre pour avoir une idée du profil de la personne qui commettrait une chose pareille. L'île d'Anglesey est célèbre pour avoir été habitée par les druides qui avaient des pratiques rituelles.
L'attention des médias augmente tandis que la police comprend que le crime pourrait être un sacrifice perpétré par une secte. Les enquêteurs font appel à un expert en profilage afin de mieux comprendre l'agresseur. Ce profileur analyse les indices liés au crime et il les compare à d'autres meurtres pour constituer le profil du coupable.
On cherchait potentiellement un homme âgé de 18 à 60 ans qui habitait seul ou avec ses parents. Cet individu aurait pu avoir des contacts précédents avec la victime. Étant donné la nature du meurtre, cette personne souffrait évidemment d'illusions ou de troubles de la personnalité.
Les techniciens de laboratoire tâchent également de construire un profil.
On a testé les taches de sang et on a fait un traitement accéléré des profils génétiques qu'on en a tirés. Ils correspondaient tous à celui de Mabel Lation.
Puis on trouve une première trace du meurtrier lorsqu'une tache de sang révèle une parcelle d'ADN de sexe masculin.
À cette étape, la trace de profil génétique masculin nous semblait révélatrice, puisque Mabel Lation habitait seule.
L'inspecteur Clayton est convaincu qu'on recherche un homme de la région qui pourrait frapper à nouveau. Il exige donc qu'on recense la population masculine du village.
On a simplement divisé le village en zones qu'on a recensées une à une. On s'est assuré de visiter chaque résidence.
Puisque le cœur a été retiré adroitement, la police fixe son attention sur un abattoir à proximité. On y recueille des échantillons d'ADN auprès de plus de 400 employés. C'est une tâche énorme pour laquelle on dispose d'un temps limité.
Certains employés étaient des travailleurs migrants qui devaient repartir chez eux. Il était donc essentiel que nos enquêteurs procèdent rapidement. Il a fallu étendre nos recherches à l'extérieur du village.
On met les bouchées doubles pour tester les échantillons et l'enquête sur la fourgonnette bleue porte ses fruits.
On a identifié les conducteurs de fourgonnettes de livraison qui s'étaient garés près de la maison.
Bien vite, on écarte ces pistes. Les enquêteurs sont aussi dans une impasse parce que l'empreinte de chaussures trouvée sur les lieux ne correspond à aucune de celles d'une énorme base de données. Le profil génétique masculin semble toutefois prometteur, car les experts arrivent à le préciser en laboratoire.
On a amplifié l'ADN masculin qui avait été recueilli sur le cadre de fenêtre pour obtenir un profil génétique partiel. En termes simples, disons qu'un profil génétique complet renferme 20 éléments d'information. Ce profil partiel en contenait 5.
L'enquête subit un autre revers puisque ce profil ne correspond à aucun des centaines d'échantillons d'ADN masculin qu'on a prélevés. Mais 9 jours après le meurtre, il y a un revirement de situation étonnant. Un suicide horrible désigne un premier suspect aux autorités.
Quelqu'un avait trouvé un corps enflammé près du pont Britannia. C'est un endroit boisé. On pouvait sentir la chair brûler. Il flottait dans l'air une odeur âcre qui était affreuse.
Apparemment, l'individu s'était aspergé d'essence. Il aurait ensuite sauté du pont, ce qui aurait causé une mort instantanée.
Des préposés transportent le corps à la morgue. Allison Hughes et son coéquipier se rendent en véhicule sur le pont. Sur place, ils trouvent un bidon d'essence et quelque chose d'encore plus alarmant.
Il y avait des marques en forme de croix sur le sol. Comme on avait vu une croix sur les lieux du meurtre de Mabel Lation, ces marques ont attiré mon attention. Je me suis demandé si cet individu était le meurtrier ou une autre victime.
On apprend vite que l'homme qui s'est suicidé s'appelait David Griffith. Des enquêteurs se rendent chez lui pour découvrir s'il était le meurtrier qu'on recherche.
On pensait qu'il était nécessaire de le considérer comme suspect à cause des circonstances étranges entourant sa mort soudaine et de sa proximité des lieux du crime.
Le profileur étudie les détails de la vie de l'homme qui éveille d'emblée ses soupçons.
Il était retourné vivre avec ses parents qui étaient âgés. Il était sans emploi et il était manifestement déprimé. On a fouillé la maison. On y a trouvé des passages de la Bible en langue galloise. Un de ces passages mentionnait un cœur.
De retour au poste de commandement, le profileur considère les indices qui accusent David Griffith et il bâtit une théorie convaincante.
À ce moment-là, le profileur collaborait encore étroitement avec l'équipe des enquêteurs.
Les enquêteurs se demandent si David Griffith a tué Mabel. Puis, rongé par les remords, il se serait enlevé la vie pour faire pénitence.
Il y avait la façon dont l'individu s'était suicidé. Il avait choisi de s'immoler par le feu. Et il s'était enlevé la vie très près des lieux du crime. Le profileur trouvait ces choses très significatives.
These are all central characteristics which taken cumulatively add up to our murderer. Our man, gentlemen, is Griffith.
Le profileur maintient qu'on a trouvé le coupable, mais la criminalistique montre vite qu'il a tort. Le profil génétique de David Griffith ne correspond pas au sang trouvé sur les lieux.
On a fini par l'éliminer comme suspect, mais ça a pris du temps.
Les pistes ne mènent nulle part, alors les enquêteurs reviennent à l'empreinte de Smell qui présente un potentiel renouvelé.
À l'origine, on avait vu une empreinte assez distincte sur l'ardoise.
La semelle en question s'était posée sur de la mousse. Au fil du temps, cette mousse a continué de pousser. Ainsi, l'empreinte, qui était d'abord délicate, s'est définie de plus en plus clairement.
Malgré ce coup de chance qui a précisé l'empreinte, on ne trouve aucune correspondance. Mais la police n'abandonne pas.
Il fallait trouver le modèle de chaussure qui avait laissé l'empreinte. Au Royaume-Uni, on vend chaque jour des centaines de milliers de types de chaussures.
L'enquêteur visite presque tous les magasins de chaussures de la région.
J'ai dû examiner des milliers de modèles de chaussures de sport pour retrouver ce motif de semelle. Il m'est même arrivé de rencontrer certaines de mes connaissances et de leur demander si je pouvais jeter un coup d'œil rapide à la semelle de leurs chaussures.
La ténacité de Dewey Jones est récompensée.
On était très emballés. Après des semaines de recherches minutieuses, on croyait avoir trouvé le type de chaussure qui aurait pu laisser l'empreinte.
On confirme la correspondance. C'est un modèle exclusif de marque Levi's.
Par chance, c'était une chaussure rare. Ce modèle n'était pas populaire, alors il n'a pas été produit longtemps.
Seulement 52 paires ont été achetées dans la région, dont 48 par carte de crédit.
On pouvait vite cibler la bonne paire.
À partir des reçus de cartes de crédit, les policiers retrouvent les acheteurs, sauf les quatre qui ont payé comptant.
Thank you very much.
Mais aucun acheteur n'est retenu comme suspect. C'est une autre impasse. Puis, au laboratoire, on trouve un nouvel indice inquiétant sur la casserole qui contenait le cœur de Mabel Lation.
Près du rebord, il y avait une marque de lèvre. On voyait l'empreinte de la lèvre. On a donc compris que la personne avait placé sa bouche à cet endroit.
Ce nouvel indice choquant ne peut avoir qu'une explication. L'individu a tué et mutilé Mabel pour boire son sang. Cette révélation oblige les enquêteurs à faire une constatation impensable. La police du nord du pays de Galles est à la recherche d'un vampire. Décembre 2001, le meurtrier de Mabel Lation est toujours au large. Les enquêteurs n'ont ni témoin ni suspect. L'inspecteur Clayton a augmenté la surveillance policière dans les rues, mais le village demeure paralysé par la peur.
L'impact sur la communauté se faisait sentir au quotidien. Les gens n'allaient plus promener leurs chiens. Tout le monde se tairait chez soi. C'était important de continuer l'enquête car on ignorait si le meurtrier frapperait de nouveau.
On a diffusé un minimum de détails au public, mais la vérité finit par s'échapper.
Comme dans toute organisation, les fuites au sein de la police se produisent en peu de temps.
Des histoires circulent au sujet du meurtre ritualiste et elles deviennent de plus en plus exagérées.
Les gens disaient que les intestins de la victime avaient été traînés dans la pièce et qu'il y avait des choses écrites sur le mur. Il y avait beaucoup de rumeurs au sujet des vampires sataniques.
Les autorités n'ont d'autre choix que de tout révéler au public.
On voulait démentir toutes les fausses rumeurs en leur livrant l'information directement de la source.
On a décidé de faire appel au public par le biais de l'émission Crime Watch.
First appeal is about a crime that thankfully seems to be unique. Even the FBI have never come across anything quite like it.
Pour la première fois, la police divulgue certains détails macabres du crime.
L'émission Crime Watch a créé des séquences de reconstitution. On demandait au public de signaler les personnes qui avaient un comportement hors du commun. On voulait aussi être mis au courant des activités douteuses dans des endroits tels que les cimetières ou les crématoriums, en raison de la nature ritualiste et occulte du crime.
L'émission Crime Watch suscite des centaines d'appels de téléspectateurs qui offrent des pistes connues comme celle de la fourgonnette bleue. Un seul appel sème les mois chez les enquêteurs.
Le 19 décembre, un homme nous a téléphoné. Il nous a suggéré de surveiller le comportement d'un jeune homme qui habitait dans le village de Landfair.
L'appel est fait par un étudiant étranger au Collège des Arts. Il vient relater son histoire curieuse au poste de police.
Il nous a raconté quelque chose qui était arrivé en septembre.
Il parle aux policiers d'une soirée où des étudiants ont décidé de faire une petite fête spontanée. Ils ont consommé de l'alcool, puis de la drogue. L'un d'eux s'est mis à agir bizarrement.
Il se comportait de manière extrêmement étrange et troublante.
Il a effrayé une jeune fille avec ses propos.
Il disait qu'il voulait réaliser son fantasme de devenir un vampire.
Son discours étrange est devenu agressif.
Il a demandé à la jeune fille de le mordre dans le cou.
Quand elle a refusé, il a voulu la forcer.
Il a dû être maîtrisé physiquement.
La jeune fille a paniqué et elle a appelé la police à l'aide.
Le jeune homme avait été arrêté pour avoir troublé l'ordre public. Les policiers l'ont emmené dans une cellule de détention à proximité où il a passé la nuit. Le lendemain, il a été libéré et déchargé de toute accusation.
Ce garçon de 17 ans s'appelle Matthew Hardman. La police se demande s'il est le tueur qu'on recherche.
Il n'était pas tout à fait dans la tranche d'âge que nous avait indiqué le profileur, c'est-à-dire 18 ans et plus. Mais il fallait trouver ce jeune homme, puis l'interroger et l'éliminer en tant que suspect.
Les enquêteurs apprennent que les œuvres du jeune artiste sont remplies d'images violentes et macabres.
On a donc visité le Collège des Arts où il étudiait pour voir les toiles qu'il avait peintes.
Une des œuvres retient particulièrement leur attention.
Look at this.
Il y avait une toile qui représentait un ange avec la cage thoracique ouverte. Au départ, je n'y ai pas accordé d'importance. Les adolescents s'inspirent souvent des pochettes de disques de rock où on voit des anges, des motards qui roulent vers les enfers et d'autres choses du genre. L'image ne me semblait pas inhabituelle à ce moment-là.
Néanmoins, les enquêteurs rendent visite à Matthew Hardman.
Madame? Would your son Matthew be at home?
Yes.
We'd just like to ask him a few questions.
On that Saturday,
le samedi, je suis allé rencontrer Matthew Hardman. La maison où il habitait était située à 90 mètres à peine des lieux du meurtre.
So, we just have a few questions.
Sure. What can I do for you?
On lui a dit qu'on enquêtait pour établir certains faits au sujet de l'incident du mois de septembre. Il aurait essayé de mordre des gens ou il leur aurait demandé de le mordre.
So young man, why did you attack her?
I just got a little out of control. It was one of those nights. I did apologize to her afterwards.
Il avait l'air d'un garçon sérieux qui était prêt à nous répondre. En fait, il m'est apparu comme un adolescent très agréable.
So, did you know Maybellation?
Just from the television, after she'd, you know, died.
Je savais qu'il avait été livreur de journaux dans le coin. Je lui ai demandé s'il avait livré le journal chez Mabel. Il m'a répondu qu'il avait cessé d'être livreur il y a 3 ans. Quand j'ai posé la question à sa mère, elle a dit qu'il avait arrêté de livrer le journal 3 mois plus tôt.
Les enquêteurs ne savent pas si Matthew a parlé d'années au lieu de mois parce qu'il a fait un lapsus ou pour une raison sinistre. Ils décident de pousser plus loin.
Je lui ai demandé de me montrer ses autres toiles. Mon instinct me disait qu'il y avait quelque chose sur place.
Sure. No worries.
Les croquis de l'adolescent semblent assez inoffensifs, mais autre chose attire le regard de l'agent Jones.
On a aperçu une paire de chaussures Levi's dans sa chambre. C'était la première paire de Levi's qu'on voyait.
There was a footprint outside the back of the house. Mind if I take these? Just to check the print.
Il a demandé pourquoi, et je lui ai dit qu'on devait exclure toutes les empreintes de chaussures des gens qui étaient allés à la maison. Comme il avait livré le journal là-bas, on voulait éliminer ses chaussures de l'enquête.
Of course.
Dewey Jones est impatient d'apporter les chaussures au laboratoire.
Je sentais que c'était un indice crucial. J'ai tout de suite dit à mon collègue qu'on tenait le coupable. Il m'a demandé si j'en étais sûr, puisque Matthew n'avait que 17 ans.
La police avait interrogé Matthew Hardman durant son enquête dans la région. Il était passé inaperçu à cause de son âge et de son alibi. Maintenant, on l'examine de plus près.
Il nous a dit que sa mère était absente le soir en question, mais qu'il était en compagnie d'une personne. On the night
in question. Les enquêteurs apprennent que la personne mentionnée par Matthew est l'étudiant étranger qui a alerté la police.
Matthew Hardman said he was with you.
That's not true.
You're certain he wasn't with you?
Absolutely.
Puisque l'alibi de l'adolescent est invalidé, la police est tentée d'ignorer les critères donnés par le profileur. Quand on le regarde à la loupe, Matthew Hardman n'a plus l'air d'un garçon rangé.
On a décidé de le garder à l'œil 24 heures sur 24. C'est alors qu'on a constaté quelque chose de particulier à son sujet. Il n'hésitait pas à sortir pour se promener la nuit, tandis que personne d'autre n'osait le faire.
Dans le laboratoire livre les analyses faites sur les chaussures de Matthew, la spéculation devient une certitude.
Les marques sur les lieux correspondaient au motif de sa semelle. Et elles avaient la même longueur. On ne pouvait pas garantir que ces chaussures avaient laissé les marques, mais on pouvait l'avancer assez solidement.
D'après ces résultats d'analyse, on a décidé d'arrêter Matthew Hardman comme suspect du meurtre le lendemain matin.
La police dispose de 72 heures pour questionner l'adolescent. Elle doit ensuite l'inculper ou le relâcher.
Même si on n'a pas ébruité le nom de Matthew Hardman dans cette petite communauté, plusieurs personnes ont su qu'il avait été arrêté. Ces gens-là n'arrivaient pas à croire qu'il avait fait une telle chose.
Quand il s'agit d'un crime monstrueux, on s'attend à ce que le coupable soit un monstre. On n'a pas trouvé un monstre.
L'enquêteur Jones et l'inspecteur Davis interrogent longuement Matthew Hardman.
So how did your trainer friend get there, son?
I told you, I don't know. I don't know how that even means anything. It's a very popular shoe.
Not really. Kind of rare, actually.
L'adolescent demeure calme et poli. Il répond volontiers aux questions des policiers. Comme il a déjà admis qu'il livrait le journal chez Mabel Lation, il reconnaît maintenant qu'il parlait parfois à la veuve.
Thank you, Matthew. Late again, I see. Make sure you close the gate when you go on your way out, won't you?
Right, Miss Lation.
What do you say now?
En la côtoyant ainsi, il a appris qu'elle avait de la difficulté à entendre. Les enquêteurs questionnent Matthew tandis que les agents techniques fouillent sa chambre.
On a fait des recherches minutieuses.
Il trouve vite un filon.
Pas besoin d'être Sherlock Holmes pour comprendre que c'était probablement le couteau.
Le couteau n'est pas le seul objet révélateur.
Il y avait des magazines et des livres consacrés à Dracula ou au diable. Dès ce moment-là, on s'est mis à dénicher une quantité de preuves matérielles qui liaient ce jeune homme au lieu du crime et qui révélaient sa vraie nature.
Quand on lui présente ses découvertes, Matthew avoue son obsession.
Il disait qu'il était fasciné par le vampirisme, surtout par le fait qu'on pouvait ainsi devenir immortel.
So I said I wanted to live forever. Who doesn't?
Most people are quite content with living to 80 years. I reckon that living forever would be a bit tiring, don't you think?
Pendant qu'on interroge Matthew, l'analyse se poursuit en laboratoire.
Quand on a arrêté Matthew Hardman, on a prélevé un échantillon de son ADN. Tandis qu'il se faisait questionner au sujet de son lien possible avec le crime, on a fait un traitement accéléré de son profil génétique.
Après trois jours d'interrogatoire, les experts terminent les analyses en laboratoire et livrent les résultats.
La trace de sang étranger qu'on avait trouvée dans la tache de sang de Mabel Lation sur le cadre de fenêtre affichait une correspondance avec un certain nombre d'éléments du profil génétique de Matthew Hardman. Mais c'était un petit nombre.
Quand on lui a parlé de la trace d'ADN qu'on avait recueillie sur les lieux, il a répondu que nos scientifiques devraient revérifier.
La faible correspondance ne convaincra peut-être pas un jury, mais elle suffit à la police.
Les preuves contre lui s'accumulaient de jour en jour. On a décidé qu'on avait assez d'éléments de preuve pour l'accuser de meurtre.
Mais certains refusent d'y croire.
Quand la nouvelle s'est répandue dans le village qu'il s'agissait de Matthew, les gens étaient totalement sous le choc. Ils n'arrivaient pas à concevoir qu'il était coupable. Bien des habitants du village pensaient que la police s'était trompée.
Le dossier de la poursuite dépend des preuves circonstancielles et d'une faible correspondance génétique. Il faut faire des tests plus poussés pour inculper ou innocenter Matthew, qui pourrait tuer à nouveau.
Le profil génétique partiel du cadre de la fenêtre comportait un taux d'erreur de 1 sur 1000. Ce chiffre vient du fait que 5 éléments d'ADN sur 20 étaient visibles. Mais en tenant compte des valeurs de la stimulation infraliminaire, on a révélé 4 éléments d'ADN de plus.
Après des semaines d'efforts, on obtient une preuve génétique irréfutable.
Le taux d'erreur est passé de 1 sur 1000 à 1 sur 73 millions.
C'était une nouvelle formidable. Quand on sait qu'on tient le vrai coupable, on veut tout faire pour éviter de le relâcher. À cette étape, les analyses médico-légales étaient essentielles pour permettre de prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
À la suite de cette réussite, on fait une autre découverte en laboratoire.
Au départ, on a examiné le couteau au microscope et même sous le microscope, on n'a vu aucune trace de sang. Mais en examinant l'endroit où le manche rejoint la lame, on a observé une trace dont on a prélevé un échantillon.
Les experts tirent un profil génétique de la trace de sang. Les résultats sont accablants.
Il y avait de l'ADN de Matthew Harmon sur la lame. Puis, la trace de sang correspondait au profil génétique de Mabel Lishan.
Pour résumer les preuves médico-légales, on avait l'ADN sur le cadre de fenêtre qui correspondait à celui de Matthew Hardman. Il y avait l'ADN de Mabel Lishan qu'on a identifié sur le couteau qu'on avait saisi chez Matthew. Puis, les chaussures de Matthew correspondaient aux empreintes sur les lieux. Somme toute, on tenait des preuves accablantes contre lui.
Ironie du sort, Matthew Hardman est trahi par des éléments de preuve tirés du sang qu'il convoitait. Le monde entier saura maintenant ce qui s'est passé en cette nuit horrible de novembre 2001. Dans une salle d'audience du nord du Pays de Galles, on expose aux juges et aux jurys l'histoire du meurtre de Mabel Lishan.
Je sais que Matthew a planifié ce crime.
La poursuite soutient que Matthew Hardman a choisi Mabel comme victime parce qu'elle vivait seule et qu'elle n'avait pas de famille. Il a attendu que sa mère parte pour la fin de semaine, puis il s'est introduit dans la maison de la veuve près de chez lui, armé d'un couteau et d'un projet insensé.
C'était l'occasion qu'attendait Matthew Hardman. Il savait que Mabel Lishan ne l'entendrait probablement pas casser le carreau. Je suis persuadé que Matthew voulait réaliser son fantasme de devenir un vampire. Il s'est glissé dans le salon où Mabel Lishan se trouvait seule. Puis, il a commis son agression brutale.
Mabel a dû essayer de se défendre, mais en vain.
Ensuite, Matthew a effectué ses manœuvres post-mortem sur le corps.
Il a soulevé le corps sacrificiel et l'a déposé sur une chaise. Puis, il a commencé son rituel méthodique.
Il a placé une croix sur le plancher. Ensuite, il a ouvert le sternum et il a retiré le cœur. Il a alors recueilli le sang du corps dans la casserole. Je crois qu'il a tenu le cœur dans sa main à un certain moment, car il y avait des traces de gouttes par terre.
Quand la casserole a été pleine, Matthew Hardman a franchi ce qu'il croyait être le pas qui le séparait de l'immortalité.
Il a bu son sang et il a défié la croix pour voir s'il serait affecté en tant que vampire. Alors il a dû comprendre qu'il était toujours la même personne. Son père est décédé quand il était assez jeune. Selon moi, cette perte a affecté la façon dont Matthew a grandi et la personne qu'il est devenu. Cette épreuve a été très dure pour lui. C'est peut-être ce qui l'a poussé à vouloir devenir immortel.
No, sir. I'd never been inside the house. Nor have I been around back.
Durant le procès, Matthew était silencieux et très calme. Mais on sentait qu'il avait quelque chose d'anormal. Son regard était froid. En le regardant, on voyait qu'il avait un côté étrange.
Les preuves contre lui sont accablantes. En août 2002, Matthew Hardman est trouvé coupable du meurtre de Mabel Lation et condamné à la prison à perpétuité. Mabel Lation n'a pas été sa seule victime. Le village d'où ils venaient tous les deux ne sera plus jamais le même.
Les séquelles de ce crime ne pourront jamais se dissiper.
Malgré les preuves médico-légales accablantes, Matthew n'a jamais avoué.
J'ai terminé son interrogatoire en lui disant qu'il avait beaucoup de choses en tête dont il devrait se libérer. Je lui ai conseillé de se confier à quelqu'un. À la lueur des éléments de preuve, je crois qu'il a tué Mabel en partie à cause de son obsession pour le vampirisme. Mais la seule personne qui pourrait le confirmer, c'est Matthew.